Alors que les débats sur le mariage pour tous ont commencé mardi à l'Assemblée nationale, nous allons ce matin essayer d'explorer au fond la situation et les droits des homosexuels dans le monde et de nous poser la question, est-ce que cette cause homosexuelle s'est mondialisée? Est-ce qu'elle s'est globalisée à la suite du titre et de l'ouvrage complet du livre de Frédéric Martel, Comment la révolution gay change le monde, Global Gay chez Flammarion, qui sort mardi prochain. Bonjour Frédéric Martel.
Bonjour.
Je rappelle que vous animez le Soft Power sur France Culture tous les dimanches de 19h à 20h et que vous êtes également directeur de recherche à l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques à l'IRIS. Et nous sommes avec, j'aurais dû commencer par vous, Ladies First, par Caroline Mécari. Bonjour.
Bonjour.
Avocate au barreau de Paris, spécialiste du droit de la famille, avec notamment votre dernier ouvrage aussi, L'amour et la loi, homo, hétéro, même droit, même devoir, chez Alma Éditeur, qui est sorti en décembre dernier. Pour commencer d'ailleurs d'emblée, comment est-ce que vous comprenez, vous, avant de lui laisser la parole, l'expression global gay ou notamment la question de, et est-ce qu'on peut parler selon vous, par exemple Caroline Mécari, d'une mondialisation de la cause homosexuelle?
Écoutez, je pense qu'il y a une mondialisation de toutes les problématiques sociales et sociétales qui peuvent se poser en France. Donc, en effet, aujourd'hui, on n'est pas centré sur la France concernant la question des revendications des lesbiennes et des gays vis-à-vis de l'égalité, en fait. À partir du moment où vous avez accès à une information qui est très largement diffusée, notamment par Internet, on ne peut pas rester entre soi. Et donc, on s'aperçoit, en effet, qu'il y a dans des pays qui sont très 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 différents une prise de conscience des lesbiennes et des gays et une demande de, entre guillemets, de normalisation, c'est-à-dire une demande d'égalité des droits, puisque le problème aujourd'hui, c'est que dans de très très nombreux pays, les homosexuels font l'objet de discrimination légale parce qu'ils n'ont pas accès au mariage ou à l'adoption. Et puis, dans des pays encore plus nombreux, les homosexuels voient leur pratique sexuelle pénalisée, au point même d'ailleurs que dans certains États, ils risquent la peine de mort si ils sont pris sur le fait, en fait. Donc, on peut dire en effet qu'il y a un espèce de mouvement qui est mondial, qui est en train de monter avec une volonté, j'ai envie de dire, d'une certaine forme d'indifférenciation. Mais c'est assez logique, en fait.
Alors, indifférenciation, oui et non.
Non, indifférenciation, c'est-à-dire que la revendication d'un traitement juridique égalitaire traduit une volonté d'une certaine forme d'indifférenciation juridique. Je vais vous donner un exemple très simple sur la question de la différence, justement. Les femmes et les hommes sont anatomiquement différents. Très bien. Pendant des siècles, cette différence de sexe a fondé la différence de traitement juridique, c'est-à-dire que les femmes avaient moins de droits et plus d'obligations que les hommes. Et puis, grâce aux revendications féministes, nous sommes arrivés à une égalité de droits. Donc, on peut avoir des différences dans la société, différence de sexe, différence de couleur de peau, différence d'orientation sexuelle, ça c'est la diversité des sociétés, ce qui n'empêche pas d'avoir une égalité de droits. Et ça, c'est effectivement une chose qui est peut-être un peu compliquée à comprendre, mais c'est une réalité. Et on le vit actuellement en France, cette revendication d'égalité de droit, de non-discrimination, qui est extrêmement forte et qui va bientôt aboutir.
Alors Frédéric Martel, notamment, voilà, un des maîtres mots a été prononcé par Caroline Mécari, Internet. Vous insistez beaucoup sur l'idée qu'au fond, Internet a fait beaucoup pour faire avancer de par le monde les droits et l'égalité et la demande d'égalité des homosexuels dans plusieurs matières de législation. Mondialisation, mais pas uniformisation. C'est-à-dire que tout part quand même un petit peu, dites-vous, d'une sorte d'American Gay Way of Life, et qu'en même temps, ça ne se réduit pas seulement à ça, que cette mondialisation de la cause gay et lesbienne.
Alors je dirais d'abord qu'il y a effectivement, et d'où le titre de ce livre, il y a une sorte de global gay. L'idée que les gays partout dans le monde, un peu au même moment, grâce à Internet, grâce aussi pour, en tout cas ce qui est de l'Occident, à une évolution très marquée par Barack Obama, très marquée aussi par l'Europe, hein, qui est un des leaders avec l'Amérique du Sud des revendications des gays aujourd'hui. Il y a une volonté de passer un petit peu d'un monde où au fond... on pénalisait l'homosexualité à un monde où on était en train de commencer à pénaliser l'homophobie. Ça, c'est une révolution très profonde. Mais au-delà de ce global gay, il y a surtout beaucoup de nombreux local gays aussi. On vit son homosexualité de manière très différente. On veut conserver sa culture, son identité. Donc on est à la fois très mondialisé et très américanisé. C'est un fait, y compris dans des communautés très underground comme en Iran ou en Arabie Saoudite, où évidemment les choses sont très difficiles puisque ce sont des pays parmi les 8 qui condamnent les homosexuels à la peine de mort le cas échéant. Mais malgré tout, on veut aussi rester soi-même. Et donc c'est un bon, je dirais, prisme par lequel on peut regarder la mondialisation avec ses effets positifs et négatifs.
Vous dites que la révolution gay, au fond, change le monde. Bon, vous exagérez comme d'habitude.
Oui, elle change le monde dans le sens où on voit bien comment se redéfinit le mariage, comment les rapports entre les individus s'accélèrent, comment au fond c'est un prisme intéressant pour analyser ce qui se passe, parce que le monde homo, s'il change, il est aussi pas homogène, il est très différent et en cela, je pense que les gays, c'est vrai aussi dans la culture, c'est vrai aussi dans Internet, vous l'avez évoqué, dans les séries télévisées, accompagne une mutation très forte des modes de vie.
Vous êtes d'accord avec ça, Caroline Mécari?
Enfin, j'ai pas de désaccord.
Alors, quand on dit que la révolution gay change le monde,
mais c'est le point.
C'est-à-dire que, d'une certaine manière, c'est totalement vrai. C'est-à-dire que à partir du moment où les lesbiennes et les gays ne sont plus
que le monde
dans
gay
la marge,
change. Mais le monde, tout court,
ça change parce que si les lesbiennes et les gays ne sont plus dans la marge de la société, ça a nécessairement un effet sur le reste de la population qui est obligée d'évoluer et son regard est obligé d'évoluer sur cette différence d'orientation sexuelle. Donc oui, ça, bien sûr que ça change socialement et sociétalement.
Si on reprend, pourquoi est-ce que quelqu'un comme Barack Obama s'est engagé en faveur du mariage pour tous? C'est quelque chose de très étrange. Parce qu'après tout, il n'y avait pas intérêt, c'était un sujet clivant, et c'était même un sujet qui aurait pu lui faire perdre les élections présidentielles lorsque, en mai dernier, il a pris position en faveur du mariage pour les homosexuels.
Et très clairement, lors de son investiture.
S'il le fait, c'est parce que pour Barack Obama, il y a en toile de fond la décision de la Cour suprême de 1967, Loving versus Virginia, qui interdit l'interdiction, c'est le cas de le dire, du mariage interracial. Lorsque Obama naît, ses parents ne peuvent pas se marier parce qu'ils sont un couple mixte dans une quinzaine d'États américains. Donc pour lui, dans sa tête, je pense que c'est là l'explication très claire pour les positions d'Obama, il y a eu le combat des civil rights, et notamment des Noirs, qui se traduisent notamment par la déségrégation dans les années 60. Il y a eu le combat des femmes, et maintenant on est à ce qu'il appelle, et ce que tout le monde appelle aux États-Unis, the next civil rights, c'est-à-dire la nouvelle bataille des droits de l'homme, ou plus précisément, parce que l'homosexualité n'est pas un droit de l'homme, c'est juste un élargissement, c'est la nouvelle frontière des droits de l'homme, et c'est d'où la formule célèbre de Hillary Clinton qui expliquait « gay rights are human rights », et c'est en cela que ça change le monde, parce que de même que la question noire, de même que la question des femmes a changé prodigieusement notre monde, eh bien la question gay vient comme une sorte de queue de comète, et je le dis pas péjorativement, dans ce combat plus large des droits de l'homme.
Et que sur la question des droits et du législateur, au fond, il s'inspire de la question noire, de l'émancipation noire, pour l'appliquer juridiquement à la question gay, Caroline Mécari?
Alors, c'est le même processus, France, au fond pour moi, c'est absolument le même processus. Effectivement, c'est un combat de civil rights, ça fait pas l'ombre d'un doute. Il est, comme en France, il y a encore une opprobre qui pèse sur l'homosexualité. Il est extrêmement difficile de faire entendre que la revendication d'égalité est une revendication de civil rights. Mais c'en est une profondément, et c'est la logique, la poursuite logique, effectivement, de l'abolition de la ségrégation entre les Blancs et les Noirs. L'abolition de la discrimination légale entre les femmes et les hommes, aujourd'hui, est venu le temps de l'abrogation de la discrimination légale qui existe à l'égard des homosexuels. Mais on s'inscrit totalement là-dedans. Je répète, malheureusement, en France, à cause de cet opprobre, on a du mal à percevoir cette dimension de droit de l'homme.
Opprobre, alors que rien, apparemment, dans la Constitution n'interdit, au fond, le mariage pour tous. Aujourd'hui, dans Libération, Dominique Rousseau, professeur à l'école de droit de la Sorbonne, grand constitutionnaliste, écrit, au fond, voilà, il n'y a aucun principe constitutionnel qui interdit le mariage entre personnes de même sexe. Il suffit de lire la Constitution de 58 pour voir qu'il n'est inscrit dans aucun des 89 articles.
Absolument, mais ça, si Dominique Rousseau écrit cet article, qui est un article bienvenu, c'est parce que, comme vous le savez, dans le débat actuel, l'UMP ne cesse de dire que la loi qui va être adoptée est inconstitutionnelle, aidée en cela par des professeurs de droit extrêmement conservateurs qui, en réalité, ne savent pas lire la Constitution. Je partage totalement l'avis de Dominique Rousseau. Il n'y a évidemment rien dans la Constitution qui interdise le mariage entre deux femmes ou entre deux hommes. Et j'irai même plus loin. Le Conseil constitutionnel, qui a été saisi de cette problématique, a déjà dit le 28 janvier 2011 qu'il appartenait totalement au législateur de donner une nouvelle définition du mariage en l'élargissant et en permettant l'inclusion des lesbiennes et des gays.
Sur ce sujet aussi, ce que dit Dominique Rousseau, il cloue le bec d'une certaine manière à tous ces députés aussi. Je pense notamment au député Debray qui est intervenu sur ce sujet, alors que par sa famille, il aurait peut-être pu regarder ce qu'était l'histoire de la Constitution que ses ancêtres ont contribué à écrire. C'est que le référendum en la matière est quand même difficile, puisqu'il est très clairement encadré. Et contrairement à ce que disent ces députés, le référendum sur le mariage pour tous n'est pas possible. C'est vraiment au législateur de le faire. Et de ce point de vue, c'est sans doute bien d'ailleurs que ça se passe par le Parlement.
Mais je m'adresse à l'avocate Caroline Beccari. Est-ce que c'est tout de même la bonne manière, au fond, de défendre tout de même cette question de mariage pour tous, en disant qu'il n'y a, au fond, pas d'entrave légale, constitutionnelle à ce qu'il y ait un mariage pour tous en France? Est-ce qu'on n'a pas considéré, tout de même, dans ce débat, est-ce que le gouvernement n'a pas été un peu vite en considérant que c'était une question, au fond, évidente? Mais on voit bien que ce n'est pas une question, au fond, de loi, c'est une question de ressenti, de culture, de génération, et qu'on peut comprendre qu'il y ait des gens, au fond, choqués par le mariage homosexuel.
Écoutez,
et que ça ne se résout pas, je veux dire, d'un claquement de doigts. La loi le permet.
J'entends très bien, mais dans le livre L'amour et la loi, oui, je raconte en fait le combat sur ces 15 dernières années qui est passé par justement des revendications devant les juridictions et donc avec des réponses.
Vous êtes celle qui a défendu entre autres le mariage de Bègles.
Je suis toujours l'avocate des mariés de Bègles. J'ai défendu Emmanuel B. Contre la France, où j'ai gagné devant la Cour européenne des droits de l'homme. C'est un long combat qui, parallèlement, est soutenu évidemment par les associations. Je crois là réellement que dans le temps que nous vivons, en réalité, il y a une instrumentalisation politicienne du débat. Parce que quand vous regardez les sondages d'opinion, et ils sont en progression constante, plus de 60% des Français sont favorables au mariage entre personnes de même sexe. On a aussi une majorité qui est favorable à l'adoption. Donc il n'y a pas de passage en force de François Hollande ni de son gouvernement, étant précisé qu'on rappellera quand même, François Hollande, il a dit très clairement ce qu'il allait faire dans sa campagne. Il a été élu sur un programme.
Donc il y a eu un référendum d'une certaine manière,
il y a eu un référendum. Donc là, on est vraiment, et moi qui ai assisté notamment au débat mardi à l'Assemblée nationale, la bronca des députés UMP était insupportable. Mais c'est de la comédie dell'arte.
Des matins, Caroline Beccari, avocate au barreau de Paris, auteure du tout dernier Amour, l'amour et la loi, homo-hétéro, même droit, même devoir, chez Alma Éditeur, et Frédéric Martel, que l'on connaît bien sur France Culture, pour entendre tous les dimanches soirs, le dimanche soir Soft Power à 19h, votre dernier livre, Frédéric Martel, qui sort le 6 février chez Flammarion, Global Gay. Et nous sommes comme chaque vendredi en compagnie de Daniel Salnave et comme chaque jour de Brice Couturier.
Chaque dimanche, cette semaine, portrait radio d'une toute petite grande ville posée sur la plus grande calotte glaciaire du monde, face à l'Amérique, Reykjavik.
L'emblème de Reykjavik évoque les sources d'eau chaude. Reykjavik veut dire la baie des vapeurs ou des fumées.
Ici, le nom des rues honore les personnages des sagas islandaises et la ville désignée ville de littérature par l'UNESCO en 2011 se rêve grande capitale. Reykjavik, ville-monde, première escale Reykjavik ou le roman des rues par Colette Fellouz, ce dimanche à 15h sur France Culture.
8h16 les matins de France Culture, la chronique de Brice Couturier. Bonjour Brice.
Bonjour Marc. Comme le dit Emilio, un réfugié cubain exilé en Floride, longtemps, les homosexuels ont cru que la libération gay viendrait des régimes socialistes. On était communistes, maoïstes, trotskistes ou castristes, et puis on s'est aperçu que c'était des dictatures très homophobes. Le vent de libération ne soufflait ni de l'Est ni de Cuba, et soufflait des États-Unis. Fin de citation. Alors oui, c'est vrai, depuis l'époque héroïque, les héroïques heures du Stonewall Hill de Christopher Street, ces trois nuits d'émeute gay de juin 69 à New York, où les homosexuels lassés d'être traqués par la police ont décidé de contre-attaquer, eh bien oui, les gays sont devenus mainstream, trendsetters, lanceurs de mode, super cool. Ils ont leur bar, leur club, leur marque, leur lobby, la Human Rights Campaign. Bons citoyens, ils votent, plutôt démocrates, paient leurs impôts, saluent la bannière étoilée autant que le Rainbow Flag. Ils appartiennent souvent aux classes créatives, ils sont plus diplômés que la moyenne et beaucoup moins touchés par l'obésité. Même s'ils sortent un peu plus et un peu plus tard que les hétéros dans des quartiers qui leur sont réservés et dont vous faites la théorie, Frédéric Martel, en géographe, ils rentrent en couple, bien sages, dans leur maison spacieuse et bien rangée, dans des suburbs calmes et fleuris. D'ailleurs, comme on sait, ils poussent désormais le conformisme jusqu'à s'être convertis à l'institution du mariage. Comme le dit un représentant du lobby en question, le HRC de Los Angeles, dans votre livre, la gauche radicale nous considère comme des conservateurs, et c'est vrai, nous ne sommes pas des gauchistes, l'époque a changé, aujourd'hui il faut être dans le dialogue, pas dans la provocation. Avec le mariage, l'adoption et le droit de servir dans l'armée, nous défendons les mêmes valeurs que tous les Américains. D'où la question que posait un petit essai bien troussé il y a 2 ans de Jacques Fortin, qui s'appelait « L'homosexualité est-elle soluble dans le conformisme ?» est l'auteur de pester contre une identité piégeuse qui enferme des individus dans une seule orientation sexuelle, les ghettoïse au lieu de les émanciper. Fortin proteste aussi contre un néo-conformisme à base de consommations obligatoires qui fait des homosexuels une niche du grand marché mondial, un sous-produit de l'américanisation du monde. Par ce détour inattendu, la société reste organisée en genres sexuels bien délimités, on en a juste rajouté quelques-uns, LGBTI, personne n'est oublié. Le mouvement homosexuel révolutionnaire des années 70 s'est normalisé, embourgeoisé, regrette Fortin qui fut trotskiste. Ses héritiers, illégitimes, aspirent à la respectabilité. Loin de vouloir faire éclater les cadres de la société, ils s'emploient à les conforter. Très logiquement, l'auteur peste contre le mariage homosexuel. La famille, écrit-il, incarne l'ordre hiérarchique entre ascendant et descendant. Elle transmet la propriété. Elle reproduit un ordre sexué en inculquant le genre. Fin de citation. Ce n'est pas du côté de la notion juridique de couple légitime qu'il fallait chercher une voie, mais du côté du concubinage, relation choisie entre deux personnes qui demeurent des personnes avec leur nom et leur salaire. Fin de citation encore. Bref, à côté de vos global gay, super intégrés, festifs et branchés sur les États-Unis, il reste une homosexualité contestataire. Mais nous parlons là des pays heureux où l'homosexualité n'est pas punie de prison, comme c'est le cas dans de nombreux pays d'Afrique anglophone. Sans oublier l'Iran où, approximativement, on ne sait pas exactement, 4000 personnes en général, auraient été fouettées puis pendues en place publique pour crimes d'homosexualité depuis que les mollahs y ont imposé la charia. Je voudrais juste vous donner une citation d'André Bercoff, un autre grand penseur, mais qui est sur Facebook, il mettait cette phrase hier que je trouve vraiment remarquable, il écrit sur Facebook « Ruse de la raison, comédie de l'histoire, en 68, gays et lesbiennes explosaient la norme, aujourd'hui, ils défilent pour y rentrer ».
La chronique de Brice Couturier sur franceculture.fr. Bon, alors, réaction, je vois qu'on était très attentifs à la chronique de Brice Couturier chez nos invités, Caroline Mécari, Frédéric Martel. Frédéric Martel, peut-être pour réagir directement à la...
Il y a effectivement une question qui est intéressante, c'est comment on passe de 69, 71 en France, c'est-à-dire la révolution gay qui est à l'extrême gauche, clairement, et qui est dans la rupture et dans la dénonciation des normes et du mariage, à un mouvement aujourd'hui qui est plutôt en train, et vous l'avez dit, que ce soit vis-à-vis de l'armée aux États-Unis, que ce soit vis-à-vis de la famille, vis-à-vis du mariage, à un mouvement gay qui a tendance et qui veut rejoindre, je dirais, l'égalité. Et en même temps, c'est pas si anodin, c'est ce qui s'est passé dans la plupart des minorités. Vous avez toujours eu une tendance radicale et puis peu à peu, une volonté de cesser d'être dans la rupture, mais au contraire de vouloir avoir les mêmes droits que les autres. C'est ce qui s'est passé avec les femmes, c'est ce qui s'est passé dans le mouvement noir, c'est ce qu'on retrouve aussi dans d'autres pays. Et c'est pour ça qu'il était important de faire ce détour par l'international qui explique ce qui se passe aujourd'hui. Vous avez un mouvement pour le mariage, ça a été dit, mais il faut le rappeler, qui a lieu aujourd'hui en Afrique du Sud où on a le droit de se marier, qui existe en Argentine. Dimanche soir à Paris, lors de la soirée en faveur du mariage pour tous, le ministre de l'Intérieur, Manuel Valls, a lu la lettre en espagnol d'ailleurs de Cristina Kirchner, Kirchner, la présidente de la République d'Argentine, qui défendait et qui disait aux Français, faites-le, parce que, je la cite, le jour suivant l'adoption du mariage pour tous, personne ne se réveillera avec moins de droits. Au contraire, certains auront obtenu ce que d'autres avaient déjà. Et on a ce mouvement en Belgique, au Canada, au Danemark, en Espagne, en Islande, en Norvège, aux Pays-Bas, au Portugal, en Suède, qui sont les pays où déjà le mariage est autorisé. Même à Mexico, dans la ville de Mexico, et dans 9 États américains où c'est déjà le cas. Le débat a lieu en ce moment en Uruguay, il a lieu en Colombie, ce printemps au Royaume-Uni, en Finlande, au Luxembourg, en Nouvelle-Zélande, à Taïwan. C'est donc pas le mariage pour tous, une idée saugrenue qui serait née dans la tête de François Hollande pendant la campagne présidentielle, ou qui serait l'exemple de militants gays radicaux qui tout à coup se diraient pourquoi pas nous. C'est un mouvement global, et ça c'est intéressant pour expliquer aussi les raisons qui font qu'aujourd'hui, les homosexuels, je pense, veulent non pas le mariage gay, ça n'existe pas le mariage gay. L'homoparentalité, ça ne veut rien dire. Ce qu'ils veulent, c'est la parentalité, ce qu'ils veulent, c'est le mariage, c'est-à-dire le mot tout court, parce qu'il n'y a pas différentes sortes de mariage, il n'y a pas un mariage pour les Noirs comme à l'époque de l'interdiction du mariage interracial et un mariage pour les Blancs, il n'y a pas un mariage pour les hétéros et un mariage pour les homos, il y a le même mariage avec la même charge symbolique, le même mot, c'est le mot aussi que veulent les homosexuels. Et le même amour.
Caroline Mécari.
Oui, en fait, j'ai écouté avec beaucoup d'attention la chronique de Brice Teinturier. Je crois qu'il y a une vraie logique.
Couturier.
Pardon, oui.
J'ai l'habitude.
Je suis vraiment confuse. Il y a une vraie logique en réalité dans cette, comment dire, dans cette évolution. C'est-à-dire que initialement, en effet, les lesbiennes et les gays ont plutôt été dans une forme de rupture parce qu'ils étaient dans la marge et qu'il fallait sortir de la marge. Mais aujourd'hui, on n'en est évidemment plus là. Il y a une vraie revendication. De normalité, parce que, et moi je trouve que c'est plutôt une bonne chose d'une certaine manière, parce que cela veut dire que la sexualité que l'on peut avoir n'est pas un élément qui vous différencie à ce point-là, vous met hors norme. Et en ce sens-là, ça me semble plutôt extrêmement positif. Et on voit bien en réalité le mouvement qui s'est dessiné, que Frédéric vient de décrire.
Pour aller dans le sens de Brice Couturier, ce qui est quand même frappant, c'est qu'effectivement, notamment les intellectuels, souvenons-nous de Sartre, souvenons-nous de Kristeva, et on pourrait citer tout un tas, Philippe Solers, on a cru, certains ont cru, dans les années 70, même le mouvement gay, qui était Geoquengame extrêmement maoïste, pour d'autres trotskistes, pour d'autres castristes, on a cru que la révolution gay viendrait de ces pays-là. Et aujourd'hui, dans l'enquête dans ce livre Global Gay, j'étais à Cuba, j'étais en Iran, j'étais évidemment aussi en Chine très longuement. On s'aperçoit que c'est pas par là qu'est venue la révolution gay, qu'elle est venue des États-Unis.
Mais vous parlez d'un Fidel Castro extrêmement homophobe, y compris de son frère, et qu'il a fallu attendre un petit peu au fond qu'il a la fille de Raoul Castro, qui est une véritable égérie là-bas pour les gays, qui atténue, on va dire, adoucit un petit peu les conditions.
Oui, puis c'est vrai que Fidel Castro s'est excusé récemment, enfin il y a quelques années, pour ce qu'il avait fait aux homosexuels dans les années 60. Mais que ce soit la Chine de Mao, qui était d'une homophobie extrêmement violente et qui tuait massivement les homosexuels, que ce soit Cuba, que ce soit au fond dans tous ces pays.
On fait un petit détour par la Chine, justement. Vous dites qu'en Chine, au fond, on est assez libre de faire ce qu'on veut, à condition que l'on ne revendique pas le droit homosexuel, qu'on ne l'associe pas aux droits de l'homme, mais que fondamentalement, si on se tient à carreau comme ça, il n'y a pas trop de soucis, mais qu'il y a une vague qui monte.
Alors, aujourd'hui, on pense qu'en Chine, enfin, les statistiques données par le recensement chinois estiment qu'on est à plus de 30 ou 40 millions d'homosexuels. Donc, effectivement, pour le régime, c'est difficile de venir contrôler la vie privée des individus avec des chiffres pareils. On est aussi autour de 50 millions en Inde et plus de 10 millions dans le monde musulman. Et tout ça, aujourd'hui, apparaît d'ailleurs sur Internet. Donc, quand vous êtes en Chine, au fond, l'homosexualité reste difficile. Au fond, l'homosexualité, elle est dissonante. Elle est perçue comme une inharmonie dans un pays qui veut l'harmonie.
Voilà, c'est ce que vous expliquez, c'est un tabou par rapport à la question de l'harmonie. Oui.
Mais au fond, quand vous vous draguez, quand vous êtes sur Internet, quand vous allez dans des bars, il y a de très grands bars gays partout et des discothèques, j'en ai vu dans des petites villes chinoises, mais c'est évidemment encore plus vrai à Beijing, donc à Pékin, mais aussi à Shanghai ou à Shenzhen, ou bien sûr à Hong Kong, où c'est beaucoup plus facile. Grosso modo, la vie privée des gens, le régime commence à s'en foutre. il ne peut plus
enfin,
la contrôler.
À condition de ne pas parler
la seule chose, c'est que vous ne créez pas une association de défense des droits des gays, sinon là, vous allez direct par la case prison. Ouais. Il y a une sorte de
C'est un paradoxe quand même. Voilà.
Mais c'est vrai aussi à Cuba, c'est vrai aussi, je dirais, même malgré tout, dans beaucoup de pays. Ce que j'appellerais un peu une homophobie froide, c'est-à-dire qu'au fond, on laisse faire, mais l'homophobie arrive sur des cas précis, notamment de dissidents, sur des camps de défense des droits de l'homme. Et puis, il y a une homophobie qu'il ne faut pas oublier, qui est chaude, hein, pour le coup. C'est celle, disons, de trois zones, hein, le Moyen-Orient, l'Asie musulmane et puis l'Afrique évangéliste, là où, concrètement, on risque de la prison et parfois la peine de mort.
On tue des gens à coups de marteau.
Oui, et avec cette, à l'ONU, cette résolution qui a été portée par un certain nombre de pays, dont la France, pour la dépénalisation de l'homosexualité, mais qui rencontre une très très grande opposition, notamment avec le Vatican en tête. Il ne faut jamais oublier que le Vatican, dans ce combat-là, est tout à fait opposé en réalité à la dépénalisation de l'homosexualité de par le monde, ce qui est quand même
finalement, c'est ça le débat. Est-ce qu'on veut être avec l'Iran et le Vatican, ou est-ce qu'on veut être avec l'Argentine, le Mexique, l'Afrique du Sud et les pays européens? C'est ça le débat pour le mariage pour tous. On a oublié de regarder la perspective globale, la perspective géopolitique, pour comprendre la réalité de ce débat. Et qui s'est traduit à l'ONU en 2008, comme le disait Caroline, par 66 pays en faveur, par 59 pays hostiles et par encore 68 pays, dont la Chine, Singapour, l'Inde, etc., qui s'abstenaient.
Et rappelons aussi juste très vite, il n'y a pas si longtemps, il y a seulement 23 ans après tout, c'était le 17 mai 90, que l'OMS supprimait l'homosexualité de la liste des maladies mentales. C'est relativement récent. Daniel Salnave.
Oui, c'était intéressant que Brice Couturier évoque le petit livre de Jacques Fortin. Pourquoi ? Parce qu'il y a un problème de génération. Lorsqu'on on fait partie de la génération comme moi, qui dans les années 70 militait dans le cadre du féminisme d'après 68, le mariage était considéré, selon une phrase qui est dans le deuxième siècle, une phrase de Simone de Beauvoir, qui dit « Le mariage est la pire des relations qui puissent s'établir entre deux êtres humains. » À l'époque, il n'est pas question de mariage gay, il est question de mariage entre un homme et une femme. Donc la revendication contre le mariage faisait que, à l'intérieur du mouvement féministe, il y avait une tentation, une séduction de l'homosexualité qui était, au moins là c'est clair, je ne suis pas dans la perspective du mariage, laquelle est forcément liée à l'exploitation des femmes. Il faut donc que les femmes et les hommes qui ont connu cette époque-là s'arrachent à cette idée-là et l'ont fait dans leur majorité. La grande plaisanterie étant Louise de Villemorin disant « il n'y a plus que les curés qui veulent se marier ».
Donc on les a curés dit un moment, et les homosexuels.
Et les homosexuels qui veulent se marier.
Du coup, c'est ce qui se passe aujourd'hui, puisqu'au fond, les homos sont dans l'Église catholique pour une grande partie.
Et personne n'empêche un homosexuel, homme ou femme, de considérer qu'il est hostile au mariage. Et je pense à une phrase de Virginie Despentes qui est très juste. Elle dit « quand je vivais avec un homme, je ne voulais pas me marier. Maintenant, je vis avec des femmes. Je veux avoir le droit de ne pas me marier. Oui. Donc, il faut le mariage pour les êtres du même
effectivement,
sexe. »
Voilà. Faut...
Est-ce que Frédéric Martel, vous êtes d'accord ou vous?
Non, mais effectivement...
Caroline Mécari et Frédéric Martel.
Il faut cette liberté de choix, en fait. Parce qu'aujourd'hui, ce qui n'existe pas pour les lesbiennes et les gays, c'est bien la liberté du choix du statut conjugal. Mais ce que je comprends parfaitement ce que vous venez dire sur le mariage, qui est une institution, qui est un cadre juridique qui a profondément évolué. Effectivement, dans les années 60, c'était un cadre juridique qui instituait une discrimination entre les femmes, entre l'épouse et l'époux. C'est-à-dire que la femme était assujettie à l'autorité de son mari. Il y avait la puissance paternelle qui ne sera mise à bas qu'en 1970. Et donc, il y a toute une évolution de l'objet mariage en tant qu'objet juridique, institution civile. Aujourd'hui, le mariage est un lieu d'égalité entre les femmes et les hommes, est un lieu d'égalité des devoirs et des droits des parents vis-à-vis des éventuels enfants. Donc ce n'est plus le même objet juridique, ce n'est plus un lieu d'oppression, justement. C'est un lieu absolument égalitaire. Et ce qui est revendiqué, au fond, c'est cette liberté du choix.
Alors si on prend Jacques Fortin, le petit livre que vous citez, Jacques Fortin, c'est une grande figure, un peu oubliée, malheureusement sans doute, un peu notre grand-père au fond, du mouvement homosexuel des années 70. Il a participé à tous les combats, notamment du QAR, ça s'appelait à l'époque, et des GLH, groupe homosexuel. Ouais. Et j'en avais fait d'ailleurs le portrait, pardon de cette autopromotion, mais dans un livre ancien, il y a plus de 15 ans, qui s'appelait Le Rose et le Noir. Ce qui est frappant en même temps, c'est comment il est en décalage par rapport à ce que veulent aujourd'hui les homosexuels. Donc, moi, je comprends très bien qu'on puisse vouloir ne pas se marier. On n'impose personne le mariage. Mais même s'il n'y a que 1000 personnes qui se marieront chaque année en étant homosexuels, ils en ont le droit. Et c'est là où on retrouve, pour le coup, plutôt que les références trotskistes ou maoïstes que Jacques Fortin emploie, moi, je citerai le texte d'Anna Arendt de 59, au moment où le mariage était interdit pour deux personnes de races différentes aux États-Unis. Elle dit « Le droit de se marier avec qui l'on veut est un des droits humains élémentaires. Et ce droit humain est inaliénable. » Et donc, c'est la raison pour laquelle, dans un souci d'égalité complet, y compris d'ailleurs avec le droit à l'adoption, et on y viendra peut-être avec le droit d'obtenir par différents procédés des enfants, il y a une volonté très claire des homosexuels d'aller jusqu'au bout. Et de ce point de vue, on a le droit d'être contre la GPA, par exemple, mais à ce moment-là, on est contre pour tous les couples, pour les couples homosexuels comme pour les couples hétérosexuels.
Brice Couturier.
Oui, je ne voudrais pas faire jouer ici les nostalgiques du phare, même si j'ai connu aucun game à la fac de Vincennes, le fond
mais ce passage de l'extrême gauche à autre chose oui, est présent chez de nombreuses personnes.
Chez de nombreuses personnes, je vous le confirme. Non, mais ce que je voudrais simplement dire, c'est que les homosexuels ont joué un rôle de contestation, pas seulement de la contestation politique radicale, mais d'une contestation beaucoup plus générale, qui est celle généralement des marginaux créatifs, et que les homosexuels d'aujourd'hui, la nouvelle génération, Frédéric Martel, bénéficient ainsi d'acquis qui ne sont pas les leurs. Ils marchent sur la lancée de gens qui se sont battus,
qui sont des
hommes et des femmes qui se sont battus, évidemment, bien entendu. Et aujourd'hui, ça débouche sur quoi? Ça débouche sur un consumérisme gay, un marché de niche. Alors, c'est formidable, on sait les marques qu'il faut porter, exactement. Tout ça est un conformisme ahurissant, plus un communautarisme exacerbé qui finit par donner des lobbies.
Brice Couturier, marginaux créatifs, ok, c'est créatif, c'est très bien, mais c'est aussi aujourd'hui une volonté d'être comme les autres. Et il ne s'agit pas d'une niche, c'est une niche qui rejoint la masse. Et surtout, en réalité, et vous pouvez pas dire ça, ces homosexuels, ce qu'ils veulent, c'est entrer dans la famille nationale. Ils veulent faire famille, ils veulent faire nation. Et donc, ils ne sont pas du tout communautaristes. Regardez ce qui se passe aux Pays-Bas. Après le mariage, vous avez les quartiers gays se disséminent, explosent complètement, et les bars sont partout, les hétéros, tout devient gay-friendly et non plus gay-fermé. Donc, au contraire, le mariage mène vers la sortie du communautarisme.
Oui. Caroline Mécari.
Non, mais ce que vous décrivez, en fait, rejoint à la fois ce qui s'est passé finalement pour les droits des femmes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les jeunes femmes ne se rendent absolument pas compte du combat des féministes antérieures. Et elles n'en ont même pas conscience. Donc ça, c'est la première observation que je voulais vous faire. La
deuxième, ce qui défrise pas mal de nombreuses féministes.
Oui, parce qu'effectivement, mais parce que justement, c'était une telle aberration d'être dans cette inégalité femmes-hommes que c'est inconcevable aujourd'hui pour une jeune femme de penser que sa mère éventuellement devait avoir l'autorisation de son conjoint pour pouvoir ouvrir un compte bancaire dans les années 60. Par ailleurs, je crois que fondamentalement, le mouvement aujourd'hui de la revendication de l'égalité est un mouvement républicain à l'inverse absolu du communautarisme. C'est-à-dire qu'effectivement, les lesbiennes et les gays veulent rentrer dans l'universalité de la loi. C'est-à-dire que quand on demande l'ouverture du mariage civil, on demande le même mariage, c'est-à-dire même droit, même devoir, qui d'ailleurs entraîne aussi l'ouverture de l'adoption. Il ne va pas y avoir une adoption spécifique aux lesbiennes et aux gays. Les gays et les lesbiennes qui voudront adopter un enfant devront se soumettre aux mêmes règles que les hétérosexuels qui aujourd'hui peuvent adopter un
de
enfant.
De toute façon, là donc où ça se corse, les pays souvent refusent.
Oui, c'est une.
Ce que les je, candidats ce qui, homosexuels.
Ce qui est important, il faut
c'est
distinguer.
Comment virtuel l'adoption, il y en non, aura pas en fait.
Si, en fait, sérieux. Non, je vais être très sérieuse moi. Vous savez, aujourd'hui, les couples de lesbiennes ou les couples d'hommes qui ont des enfants, sur le plan juridique, et je le raconte dans mon livre, sur le plan juridique, l'enfant n'a légalement qu'un parent. Le deuxième parent, le parent social, le parent de fait, aujourd'hui ne peut pas adopter l'enfant de son partenaire. C'est impossible.
Et c'est pour ça que la demande de l'adoption est faite. Voilà. Il n'y aura pas de nouveaux enfants. Voilà. Ça permettra de consolider les droits des enfants existants. Et c'est pour ça d'ailleurs que la droite aurait dû comprendre que c'est une loi qui défend les droits de l'enfant, qui défend leur protection et la famille. Et c'est pour ça que David Cameron, premier ministre conservateur, a eu ce discours récemment incroyable où il dit « Je suis en faveur du mariage gay parce que je suis conservateur ».
Il n'y a pas que la droite qui est contre le mariage Gage. Je rappelle que Lionel Jospin est contre aussi.
Bien sûr,
l'éclivage n'est pas.
Il faut faire entendre aussi la voix de l'autre côté aujourd'hui.
Vous parliez de la différence générationnelle. Lionel Jospin, justement, appartient à cette différence générationnelle, avec d'ailleurs un propos qui est quand même...
Et surtout le mari de Madame Agacinski,
voilà,
une grande théoricienne très hostile à ce...
Totalement, absolument.
Ce qui montre que ça n'est pas qu'une question de clivage droite-gauche, d'ailleurs, justement.
Exactement.
Ça, c'est bien de rappeler quand même.
Ils sont quand même très minoritaires à gauche aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, à gauche, là, il y a vraiment une...
Daniel Salnav.
C'est à Caroline Macari que je voudrais poser cette question. Oui, il y a une filiation très nette entre le féminisme et la revendication aujourd'hui du mariage pour tous ou du mariage gay. Mais moi, j'attends davantage du mariage gay. Précisément de l'adoption. Pourquoi ?
Qu'il y ait autant de divorces chez les gays qu'il y en a chez les hétérosexuels.
Parce que les jeunes femmes, dont vous dites, elles profitent des acquis du féminisme qu'elles ont oublié. Oui, mais on a vu dans les dernières années une certaine régression, un retour, y compris très naturaliste à l'idée. On voyait partout, dans Voici et partout, des jeunes chanteuses disant « Le plus beau jour de ma vie, c'est quand j'ai eu un gros ventre », etc. Ce que j'attends, moi, des capacités d'adoption qu'on donnera aux couples homosexuels, c'est qu'ils fassent de l'adoption la filiation par excellence, dont parmi les possibilités d'avoir des enfants, pour avoir des enfants avec son ventre ou parce qu'on a adopté, je pense que c'est ça que j'attends. C'est-à-dire que ça va aider les féministes elles-mêmes à revenir un peu plus près de ce qu'était leur vocation au départ, c'est-à-dire de couper l'idée de nature, de ses conséquences. D'ailleurs, entre parenthèses, comment se fait-il que l'Église, qui trouve la nature pécamineuse, la défende avec autant de régularité ? Ça, c'est un autre problème.
Parole,
mais c'est sur la question féministe.
La parole est à Maître Mécari.
Écoutez, je trouve... En fait, vous prêtez aux lesbiennes et aux gays une vertu qu'ils n'ont pas nécessairement, c'est-à-dire une capacité à subvertir des règles qui existent aujourd'hui. Et je crois qu'en réalité, les gays et les lesbiennes sont comme les hétérosexuels. Et d'ailleurs, aujourd'hui, la plupart font famille en passant par l'engendrement et non pas par l'adoption. D'abord parce que c'est compliqué, ça c'est déjà la première des choses, parce qu'il y a peu d'enfants à adopter, que ce soit sur le territoire français ou à l'étranger. Et puis par ailleurs, parce qu'ils ont cessé de censurer leur désir d'engendrement, parce que justement ils ne sont plus en marge de la loi, la sexualité homosexuelle n'est plus pénalisée. Donc ils ont recours à la procréation médicalement assistée en allant dans les pays limitrophes où elle est parfaitement possible. Et donc, malheureusement, je crains qu'ils ne fassent pas de l'adoption le mode principal d'établissement de la filiation, c'est-à-dire effectivement un mode d'établissement de la filiation qui est totalement déconnecté de la nature et qui est parfaitement possible, parfaitement envisageable. Ça passe encore pour partie par l'engendrement. Ce sera un mixte, à mon avis, entre les deux, puisque, comme je le disais, grâce à l'ouverture du mariage... Lorsqu'un couple de femmes, par exemple, aura été en Belgique et aura eu un enfant par procréation médicalement assistée, légalement, aujourd'hui, il n'y a qu'un seul parent. Avec le mariage, la compagne pourra adopter l'enfant de sa conjointe. Et donc, il y aura à la fois une filiation, le mélange des deux, une filiation qui a pour origine la biologie et une filiation qui a pour origine l'engagement.
Alors, cela dit, tout le monde a salué, enfin tout le monde, ceux qui sont pour, ont salué le discours de Christiane Taubira, mais fallait-il tout de même nécessairement, Caroline Mécari, ajouter au débat du mariage pour tous la question de la gestation pour autrui, ce qui semble, y compris dans les rangs de la majorité, ô combien maladroit ?
On peut dire qu'effectivement, la sortie de cette circulaire est éminemment inopportune. D'abord parce qu'elle mélange deux questions qui n'ont strictement rien à voir. L'ouverture du mariage civil et de l'adoption est totalement déconnectée de l'ouverture des procréations médicalement assistées, dont font partie, en tout cas dans certains pays, la gestation pour autrui. Donc c'est totalement inopportun. Mais cette circulaire, en même temps, ne fait que rappeler les règles légales. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un enfant a sa filiation établie à l'égard d'un parent qui est français, il est français. Donc on doit lui délivrer son certificat de nationalité française.
Et si on ne lui délivre pas, il est apatride.
Et peu importe, peu importe le mode de conception, il y a l'intérêt primordial de l'enfant qui est garanti par la Convention internationale des droits de l'enfant, qui le dit. Il doit primer. Et en effet, dans le livre, je raconte le parcours, le combat de ces couples d'hommes qui essayent d'obtenir pour leur enfant un passeport, une carte nationale d'identité, et la difficulté qu'ils ont en raison du mode de conception. Mais la circulaire Taubira ne fait que rappeler les règles légales. Je ne vais pas rentrer dans le détail, on ne va pas faire un cours de droit, mais en tout cas, cela dit, politiquement, ce n'était pas très intelligent. Mais bon, de toute façon, la droite fait feu de tout bois. dans ce débat. Tout ce qui peut sortir en procédant par des amalgames, qui sont d'ailleurs parfois extrêmement malhonnêtes, parce qu'il faut quand même rappeler que cette circulaire avait été annoncée en commission des lois le 16 janvier dernier, devant 30 députés, dont M. Mariton, par exemple, dont M. Copé, et là, absolument pas un mot. Donc, il y a une instrumentalisation politicienne de cette circulaire. C'est comme ça, c'est le jeu politique, c'est la comédia dell'arte de l'UMP.
Pour être honnête, il est clair qu'il y a un certain nombre d'erreurs qui ont été commises par le gouvernement. La première, c'est d'avoir mêlé des sujets qui n'avaient pas de rapport. Cette communauté
gay, la politique de la famille d'un côté, voilà, cette et communauté la question du mariage pour tous de l'autre.
Ce mouvement gay qui est un petit, qui a des représentants d'ailleurs peu nombreux, on lui demande non seulement, enfin, il demande le mariage, mais on lui colle dessus la bioéthique, les bébés éprouvettes et l'école libre. Ça fait quand même beaucoup pour ce mouvement-là, et d'où les centaines de milliers de personnes dans la rue qui ne comprennent pas forcément. Donc on a manqué d'explications. Il fallait d'une part faire une loi sur le mariage qui automatiquement d'ailleurs donnait l'adoption. Donc ça, c'était le premier débat. Et puis un deuxième débat qui ne concerne plus les couples homosexuels par eux-mêmes, qui concerne la famille, la bioéthique en général, que ce soit la PMA, la GPA, ce débat a lieu d'avoir, il mérite d'avoir lieu. Et là, à ce moment-là, on traite les réponses pour permettre à tous les couples pour décider. Et on décide, et ça s'appliquera à tous, que ce soit pour ou que ce soit contre, ça concernera l'ensemble des couples mariés.
Brice Couturier.
Oui, si le drapeau gay est multicolore, comme on sait, le débat aujourd'hui, il est un petit peu monocolore, donc j'aurais fait entendre la voix de ceux qui ne sont pas d'accord, même si ce n'est pas forcément mon point de vue à moi, mais pour que ça ne soit pas absolument tout du même côté, parce que ça peut énerver l'auditeur, et je le comprends.
C'est pour ça que vous avez la parole, donc
allez-y, voilà. Alors, je vais droit au but. Pour moi, il me semble assez évident que, contrairement à ce que vous êtes en train de dire, la question, enfin non, en partie ce que vous dites, mais pas complètement, la question du mariage homosexuel, c'est-à-dire le droit, ce qui me paraît quand même difficilement contestable, l'idée que quand on a vécu toute sa vie avec quelqu'un, on ne puisse pas avoir sa pension de réversion s'il est à la retraite, qu'on ne puisse pas bénéficier de l'héritage alors qu'on a vécu avec cette personne toute sa vie, ou la moitié de sa vie, enfin qu'importe, ça me paraît difficilement opposable. Par contre, la question de l'enfant, c'est une autre question. Et là, il me semble que le principe de précaution devrait s'appliquer un peu plus. La preuve, c'est que, contrairement à ce que vous dites, la législation européenne, elle est loin d'être aussi simple que ce qu'on nous présente dans les médias favorables majoritairement au mariage, à l'adoption et à la procréation médicalement assistée. Allez voir simplement le benchmarking qui a été fait par l'Institut Thomas More. Il y a une semaine environ, l'Institut Thomas More a été regarder la législation de chacun des 27 pays européens sur la question du mariage gay, de l'adoption et de la procréation médicalement assistée. On s'aperçoit qu'effectivement, il y a 7 pays sur 27 qui ont adopté le mariage gay, mais il n'y en a que 6 qui ont adopté ce qui semble aller avec, et ce que le gouvernement est en train de, là où le gouvernement est en train de mettre les pieds dans le plat. C'est-à-dire que je pense qu'il y a une majorité assez nette de Français qui sont pour le mariage gay, enfin ça me paraît, les sondages sont assez évidents pour ça, donc la démocratie c'est de leur donner satisfaction. Je ne suis pas sûr qu'il y ait une majorité de Français qui sont pour qu'on loue les ventres des femmes quand on n'est pas capable de procréer entre hommes, ou qu'on loue les ventres de femmes étrangères.
Mais même les homosexuels sont très divisés, et voilà. Sur ce et sujet, voilà. Mais c'est parce qu'on demande ce jour. Ce qui est important malgré tout, c'est qu'on ne parle pas d'enfants qui vont venir. Ces enfants sont là. Lorsqu'on parle de l'adoption et lorsqu'on parle des enfants, il y a des centaines de milliers d'enfants dans ce pays. Et donc c'est aussi les protéger.
Pardon, mais je suis en désaccord avec ce que vous venez de dire, parce que vous venez de faire un amalgame entre d'abord l'adoption et la procréation médicalement assistée, notamment la gestation pour autrui.
L'homoparentalité en général.
Non, mais il faut d'abord rappeler que la gestation pour autrui, aujourd'hui en France, elle est interdite aux couples hétérosexuels et aux couples homosexuels. C'est l'article 16-7 du Code civil. Donc, ce n'est pas le débat aujourd'hui. Et peut-être que ça ne le sera pas pendant 5 ans. Par ailleurs, sur la question des enfants, quand même, ça fait maintenant l'homoparentalité, elle existe depuis au moins une quarantaine d'années. Depuis 38 ans, très précisément, nous avons des études sur les enfants qui sont élevés par 2 femmes ou par 2 hommes. Aucune de ces études ne vient montrer
forcément
que ces enfants...
Ces études, elles sont toutes... Ces études sont menées soit par des organisations gays ou lesbiennes, soit par des organisations évangélistes. Et dans un cas, évidemment, comme par hasard, on vous dit c'est formidable, tout va très bien. Dans l'autre, on vous dit c'est un désastre.
Et dites-moi.
J'attends une petite objective sur ce sujet-là.
Dites-moi, mais alors à ce moment-là, que l'État le fasse. Mais je peux vous dire la chose suivante, c'est que moi qui ai plaidé à plusieurs reprises devant la Cour européenne contre la France n'a jamais été capable de verser devant la Cour européenne une seule étude qui montrerait que les enfants iraient mal d'une manière ou d'une autre en réalité. Donc, il n'y en a pas en réalité. Et je trouve que quand même, là, le débat, il est extrêmement large. Il faut écouter les enfants qui se sont exprimés là dans le débat. Des enfants qui aujourd'hui ont 20 ans, ans, 25 ans, bah, et qui sont comme vos enfants.
Il y en a eu des deux côtés. Hein.
Voilà, donc... Mais au fond, qu'est-ce que ça veut dire, la question que vous posez? Ça veut dire que finalement, quand on est homosexuel, il y a peut-être quelque chose qui ne serait pas normal chez l'homosexuel qui ferait que l'enfant risquerait un déséquilibre de je ne sais quoi. Mais depuis quand l'hétérosexualité est une garantie de quoi que ce soit? Est-ce que Tiphaine, qui est décédée sous les coups de son père et de sa mère, était protégée parce qu'elle avait des parents hétérosexuels?
Non, je ne crois pas.
Le cas des... voilà, donc l'hétérosexualité n'est pas une garantie de quoi que ce soit.
Mais je suis très contente, Daniel, que vous ayez abordé la question des mères porteuses en général. Oui. Parce qu'elle est réveillée pour l'instant à l'occasion de l'adoption ou de la filiation des couples de même sexe, mais elle n'appartient pas à cette question-là. Non. Elle appartient à la question générale des couples hétérosexuels, homosexuels, qui peuvent ou non y recourir. J'ai entendu Elisabeth Rodinesco récemment rappeler qu'elle n'y était pas hostile, mais que ça supposait un encadrement. Extrêmement précis. Mais aussitôt aborder l'idée que mariage homosexuel égale location et marchandisation du ventre des femmes, je pense que ça n'est pas rigoureux. On peut être contre, à condition d'être contre aussi pour les couples hétérosexuels, et pas en faire un argument contre le mariage homosexuel.
Absolument. Totalement d'accord.
Ah ben, à l'unisson, Karine Mekka et Frédéric Martel. Pour terminer, je voudrais qu'on écoute un témoignage, celui de Stéphanie Arc, parce qu'on s'est posé la question tout de même aussi à partir de vos livres, on s'est posé la question de la culture lesbienne. Souvent, quand on emploie le mot gay, c'est les hommes, une fois de plus, quand même, chasser le naturel et revient au galop, recouvrent les questions féminines. Écoutez sur ce thème-là, justement, donc Stéphanie Arc, journaliste, philosophe, qui a publié Les lesbiennes au cavalier bleu, et elle est également membre de l'association SOS Homophobie. Elle est au micro de Léna Burger.
Dans la mesure où les femmes sont encore considérablement invisibilisées et que les lesbiennes sont avant tout des femmes et qu'elles le sont donc doublement, parce qu'il y a une forme d'invisibilisation de l'homosexualité féminine qui a toujours existé et qui perdure, je pense que c'est important de distinguer culture gay d'un côté et culture lesbienne de l'autre, parce que finalement, en général, on parle de culture homo, par exemple, quand on en parle éventuellement, et c'est l'arbre qui cache la forêt. Donc du coup, la culture lesbienne, elle a pu être moins... Elle est moins connue, quasiment inconnue. La plupart des gens seraient incapables de vous citer un roman qui parle d'amour lesbienne. Cette culture-là, si vous voulez, par exemple, elle peut aller de Gertrude Stein dans la littérature à Virginie Despentes aujourd'hui. Elle va de Claude Cahun en photo à Annie Leibovitch. Enfin, il y a tout un tas de femmes qui ont créé et qui ont produit des choses. Et, quand elles sont connues, comme Colette ou Virginia Woolf, par exemple, ce sont des grandes figures de la littérature, enseignées à l'école, etc., on nommait leur sexualité. On nommait, par exemple, de dire que Colette, pendant 5 ans, a vécu avec Missy, qu'elles se sont échangées des lettres d'amour incroyables, que Virginia Woolf, quand elle a écrit Orlando, c'était pour Vita Sackville-West, dont elle était éperdument amoureuse, tandis que, quand on parle de Rimbaud et Verlaine, on parle de leur... À l'école même, on évoque éventuellement leur sexualité. Vous voyez, il y a une double morale, de toute façon, qui continue à s'appliquer sur les femmes et sur les hommes. Et cette sexualité féminine, elle est souvent passée sous silence encore.
Et puis, question, du coup, est-ce que les hommes gays font-ils de l'ombre aux femmes lesbiennes? Réponse Stéphanie Arc.
Je pense que les luttes LGBT doivent être soudées. Néanmoins, il est évident qu'on a, en tant que femmes lesbiennes, on a un travail supplémentaire à faire, si vous voulez, de visibilisation au sein même des associations LGBT. Moi, je suis donc à SOS Homophobie depuis pas mal d'années. Et en fait, une des dimensions de mon travail au sein de l'association avec d'autres femmes, c'est notamment de rappeler aux gays qu'il y a des lesbiennes, que la lesbophobie existe, qu'elle n'a pas forcément les mêmes manifestations que la gayphobie. On s'est battu, par exemple, au sein de l'association, et on se bat toujours, pour l'utilisation du terme lesbophobie, pour qu'on ne dise plus homophobie, mais qu'on précise à chaque fois lesbophobie, gayphobie, transphobie, biphobie, parce que nommer les choses, c'est les faire apparaître... C'est les dévoiler, quoi. Donc c'est fondamental. Le langage est politique, de toute façon, par exemple. C'est un exemple.
Voilà, Stéphanie Arc, auteure notamment des lesbiennes dans la collection Il est reçu au Cavalier Bleu. Un petit mot de commentaire, Corinne Mécari.
Écoutez, je crois que ce qui se passe, en effet, pour les lesbiennes, n'est que la logique ou la transposition de ce qui se passe dans la société tout entière, où il y a encore aujourd'hui une différence de visibilité entre les femmes et les hommes dans l'espace public. Bon, c'est encore en train de changer, et on retrouve exactement le même phénomène au sein, entre guillemets, de la communauté homosexuelle, même s'il n'y a pas de communauté homosexuelle, parce qu'il y a vraiment une très grande différence entre les individus, comme il n'y a pas de communauté hétérosexuelle. Donc voilà, à la fois une unité sur les luttes sur le plan juridique, mais effectivement une différence de socialisation, on va dire.
Merci Caroline Mécari. Je rappelle L'amour et la loi, homo hétéro, même droit, même devoir chez Alma éditeur. Frédéric Martel, peut-être évoquer cette figure pour terminer l'émission de ce Syrien que vous avez rencontré qui vous dit oui, je ne sais pas bien si à l'heure où mon peuple se fait massacrer, il faut continuer, où la priorité est à défendre la question homosexuelle, elle est à défendre les droits tout court.
J'aimais bien dans l'autobiographie de Salman Rushdie cette phrase « You must never write history until you can hear the people speak ». C'est l'idée que quand on écrit sur ce genre de sujet, il faut écouter les gens, écouter la vie. Et donc j'ai fait des portraits multiples de figures qui se battent, très solitaires, des personnages ordinaires qui sont extraordinaires. Et ce Syrien comme le Cubain que je rencontre, comme les lesbiennes, parce qu'il y en a beaucoup, y compris dans Global Gay, notamment, qui se battent, une lesbienne en Arabie Saoudite. C'est des combats minuscules, extrêmement compliqués, avec des gens d'un courage remarquable. Je suis sûr qu'il y aura un prix Nobel très prochainement donné à un militant LGBT, comme on dit, parce que c'est un combat d'une violence inouïe et qui nécessite un courage formidable, comme ce Syrien qui se bat.
Et dont on ne sait pas à l'heure actuelle s'il est éventuellement d'ailleurs toujours en vie.
Toujours en vie, oui.
Global Gay, ça sort le mercredi 6 février chez Flammarion. Il y aura une adaptation télé ? Y a-t-il marqué sur la dernière
question ? Sur France 5, une soirée, oui, bientôt.
Merci à vous, Caroline Mécari, Frédéric Merci. Martel.
Dans les bras de celle qui dort, qui dort enfin confiante et bête, parce qu'elle croit que tu es son maître. Moi je sais bien que tu t'ennuies, comme tu sais que je m'ennuie dans les bras de celui qui dort. Orgueilleux, confiant et bête, tu sais bien qu'on s'aime encore. Alors c'est deux qu'on aime pas, qu'on aime un peu. Marions-les, marions-les, je crois qu'ils se ressemblent. Marions-les, marions-les, ils seront très heureux ensemble. Offre la guérison d'être le salut de nos vies, de briser la mélancolie à la source de leur amour. Mais que font-ils de notre amour ceux qui ont pris la succession? Ils nous offrent que l'on oublie. C'est impossible, on s'aime encore. Alors c'est d'eux qu'on n'aime pas, qu'on aime un peu. Marions-les, marions-les, je crois qu'ils se ressemblent, marions-les.
Et bien sûr, vous aurez reconnu Juliette Gréco à 8h54 sur France Culture. C'est l'heure, comme chaque vendredi, du Tout Feu Tout Flamme avec M, le magazine du Monde, et sa chef, Marie-Pierre Lannelongue. Bonjour Marie-Pierre.
Bonjour.
Dans le Global Gay de Frédéric Martel, il est question beaucoup de la diffusion, notamment de la valorisation du personnage gay, trans, lesbien à travers les séries télévisées, entre autres, de par le monde. C'est de cela dont vous voulez nous parler,
ouais,
pour commencer.
Nous y voilà. Ouais. Alors effectivement, ça fait 10 ans qu'on sait que les séries font partie de la culture populaire dans le monde entier, et particulièrement aux États-Unis et un peu aussi en France. Alors depuis 10 ans, on a aimé des femmes au foyer hystérique, des médecins frappadingues, des mafiosos dépressifs, des publicitaires machos mais craquants. Vous voyez bien à qui je fais référence. Eh bien, voici la tueuse à gages transsexuelle dans une série qui arrive le 21 février sur Canal+, donc tous les jeudis, 6 fois 50 minutes. Ça s'appelle Miss and It.
Vous avez bien dit une tueuse à gages transsexuelle.
Transsexuelle. Elle s'appelle Mia. Elle est incarnée par Chloé Sevigny, l'actrice américaine. C'est une femme bloquée dans un corps d'homme, c'est ce qu'elle dit. Et elle va se retrouver, cette tueuse à gages, obligée, entre guillemets, de s'occuper d'une fratrie d'enfants orphelins, dont un fils de 11 ans, dont elle ignorait l'existence, enfin dont il ignorait l'existence, on s'y perd un peu. Et ce qui est très intéressant dans Miss and It, c'est que le sujet, c'est pas tellement qu'elle soit transsexuelle, l'héroïne, c'est surtout que c'est une tueuse à gages, elle est urbaine, et elle va se retrouver projetée avec des enfants, beaucoup d'enfants, dans la campagne anglaise. Et c'est ça la vraie modernité de Miss and It, c'est que finalement, le scénariste se dit tout le temps, ok, elle est trans, et alors ?
Et so what ?
Voilà, et so what ? Et donc effectivement, on se rend compte depuis quelques années que les figures, les caractères, comme on dit dans les séries, homosexuels, lesbiennes ou gays, deviennent de plus en plus importants. Et puis, sont pas des, c'est pas le gay ou la lesbienne de service. Ils deviennent vraiment des caractères de la série. Ainsi, il y a...
On va dire quoi, des personnages positifs, au fond, auxquels on peut s'identifier. Ouais, hein, ce que vous dites, Frédéric. Oui, et Caroline Mécari.
Non, un tueur à gages, je ne sais pas si c'est un personnage positif.
Dans la mesure, où il est trans.
C'est pas positif ou négatif. Oui. C'est le fait que ce sont des personnages et des personnages tout court.
Et c'est ça qui est intéressant. C'est en particulier vrai aux États-Unis, moi qui suis un grand fan de Tony Kushner, Angels in America, ou même de Glee, hein, dans le Ryan Murphy scénariste, met des personnages gays partout et deviennent, cette saison, plus de 70 séries aux États-Unis ont un personnage ou une histoire gay. C'est incroyable.
Voilà, donc il est en train de me piquer la suite de ma chronique. Je voulais effectivement dire que, après les gays et lesbiens, c'était les trans qui est entré en scène. Et effectivement, c'est pas du tout la cage aux folles. C'est vraiment Glee, cette série musicale américaine qui passe sur Fox News, qui est quand même une chaîne extrêmement conservatrice. Et effectivement, il y a un personnage qui s'appelle Unique, qui est un personnage de chanteur transsexuel, qui au départ était un peu comme ça dans l'ombre. Et au terme de la troisième saison, il devient un des caractères les plus importants. Donc à partir du mois prochain, il y a une association de veille médiatique que peut-être Frédéric Martel connaît, qui s'appelle le GLAAD. C'est une association américaine. Voilà. Alors, je vais essayer de ne pas me tromper. C'est le Gay and Lesbian Alliance for Defamation. Et ils vont, au mois de mars, délivrer leurs awards. Meet and Is est effectivement dans la liste des nominés. Et le président de cette association dit, il est très optimiste, lui, il dit, la société américaine, même si elle est très conservatrice, elle a des poches très conservatrices, elle est quand même aujourd'hui en train d'attendre des héros gays et lesbiens. Et elle voit effectivement les LGBT comme des familles. C'est pour ça que les scénaristes, effectivement, se penchent sur des vrais personnages et pas le gay et la lesbienne de service.
Mais on voit bien que ça participe de la banalisation en fait des lesbiennes et des gays et de l'intégration dans la société, tout simplement.
Mais le point le plus important, c'est que non seulement c'est vrai aux États-Unis, on pourrait citer Six Feet Under, The L Word, Queer as Folk et beaucoup d'autres, mais surtout c'est vrai aujourd'hui sur les séries égyptiennes, c'est vrai dans les séries libanaises, c'est vrai dans les séries turques, et ne parlons pas des télénovelas où il y a des personnages gays partout. Donc en réalité, la télévision est un des éléments avec Internet qui accompagne la révolution gay.
À la une de M, le magazine du Monde. On est un peu toujours dans le même sujet.
Ah oui, absolument. On fait le portrait de Philippe Villain. Parce que vous savez que le débat sur le mariage révèle que dans chacun des camps, il y a des gens qui pensent contre. Alors c'est le cas à gauche et puis c'est le cas à droite. On a vu à l'Assemblée Franck Riester et Benoît Apparu isolés comme ça au milieu de de la masse des députés qui sont contre. Et puis il y a Philippe Villain qui, à la veille de la manifestation du dimanche 27, s'est exprimé de
Le rappelez, c'est l'ancien patron du Figaro.
C'est l'ancien patron du Figaro, c'est un homme de droite, un libéral, un conservateur, il est contre l'euro et il est pour le mariage gay et il raconte...
Contre l'euro pour le mariage gay, c'est tout un titre.
C'est pour dire que c'est quand même un personnage assez intéressant. Et surtout, ce qui est intéressant dans le portrait, c'est que lui, il a été le patron du Figaro sous Robert Hersant. Et que c'est peu dire que le sujet de sa sexualité était tabou. Robert Hersant disait toujours, parce qu'une de ses attributions consistait à recevoir les annonceurs, les décideurs, les partenaires du Figaro. Et Robert Hersant disait dans les dîners en ville, mais quel dommage qu'il n'ait pas une femme pour recevoir à ses côtés. Philippe Villain raconte aussi que il voit à un moment donné les gens du syndicat du livre qui lui disent, vous savez, monsieur Villain, il y a un sujet, on est au courant de votre sexualité, mais c'est un sujet qu'on n'abordera pas lors des réunions avec le syndicat du livre. Donc c'est dire si Philippe Villain aujourd'hui est dans l'affirmation et la visibilité.
C'est le vilain de l'histoire, en fait.
Et là,
c'est Mika. Alors, Philippe Villain, lui, il est pour le mariage gay, mais il n'était pas dans la rue dimanche, parce que c'est pas vraiment son genre. En revanche, Mika, cette star de la pop, était dans la rue. Il est, vous savez, américain et libanais. Il parle très bien français. C'est dire s'il suit le débat sur le mariage pour tous.
Et il chante Grace Kelly.
Grace Kelly, effectivement, parce que Olivier Dahan, le réalisateur de La Môme, est en train de réaliser un biopic sur Grace Kelly avec Nicolas.